très bienvenue. C'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter.
En direct du studio 511, une émission réalisée par Jérôme Chélius, assistée aujourd'hui de Lucie Spindler, avec à la technique aujourd'hui Éric Morin et Michel Bézikian.
Au sommaire cette semaine, Amiens, capitale de la lutte, et SDF, pas de quartier dans les beaux quartiers.
Parce qu'on ne peut pas tolérer d'enfermer des gens qui protestent contre une fermeture d'usine. Ça fait plus de 800 familles qui sont détruites complètement socialement.
C'est pas possible que ces gens-là puissent vivre là. Il y a d'autres endroits pour les mettre, c'est de la provocation, parce que ce sont les bourgeois qui habitent le 16e.
Alors, on attend plus de 150 cars qui étaient sur la route ce matin. Il y a plus de 100 comités de soutien qui ont été créés au bout du jour dans toute la France.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Comme un bruit qui court, que quelque chose ne tourne pas rond. La même semaine, des syndicalistes se battent pour ne pas aller en prison et des policiers, eux, prennent le pavé lors de manifs sauvages cagoulés. Avouez qu'il y a là un petit air de monde à l'envers. Alors que les policiers font leur nuit debout et que le FN, lui, rêve de finir la nuit avec, alors que les attentats djihadistes et la peur qu'ils inspirent ont relégué au second plan les combats pour la justice sociale, beaucoup encouragent à piétiner ce qui reste de liberté publique, à accepter l'état d'exception généralisé. Pas un jour sans un nouveau signe de zémourisation croissante d'une bonne partie de la presse. Alors, pour encore une fois vous épargner les éditorialistes de la pensée unique, comme un bruit qui court vous emmène sur le terrain, là où ça se passe et là où ça coince. Charlotte Perry nous ramène ainsi dans le 16e arrondissement, suivre un fascinant cas de radicalisation des beaux quartiers qui a culminé cette semaine avec un passage à l'action directe et une tentative d'incendie. Mais avant cela, nous partons à Amiens avec Antoine Chao, suivre la mobilisation de soutien aux 8 de Goodyear contre leur condamnation à la prison ferme et pour leur relax. Des riverains privilégiés qui veulent défendre leur gâteau, des ex-salariés qui ne veulent pas se retrouver derrière les barreaux, jusqu'à 17h sur France Inter, comme un bruit qui court, selon que vous serez puissant ou misérable, vous connaissez la fable.
Antoine Chao, Charlotte Perry,
Guy Montil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Mercredi dernier, Amiens a été baptisé capitale de la lutte. En soutien aux 8 ex-salariés de Goodyear, dont 5 délégués CGT, qui comparaissaient en appel pour séquestration et violence en réunion. En janvier, ils avaient été condamnés à 24 mois de prison, dont 9 mois ferme, assortis d'une mise à l'épreuve de 5 ans, pour avoir défendu leurs emplois et ceux de leurs collègues. Une procédure judiciaire enclenchée par le procureur de la République d'Amiens, alors que la direction de Goodyear avait retiré sa plainte. C'est la question de la criminalisation de l'action syndicale et du respect des libertés individuelles et collectives qui se pose pendant ce rassemblement. Relaxez nos camarades, compte rendu sonore depuis la capitale de la lutte.
Faites pas confiance.
Mercredi 19 octobre, Amiens, devant le palais de justice. Alors il y a les 8 Goodyear qui sont rentrés dans le tribunal au palais de justice d'Amiens. Et il y a toute la délégation de syndicalistes et de citoyens qui sont venus les défendre, les accompagner pour cette audience d'appel qui reprend la manifestation pour aller où va prendre place le rassemblement les 19 et 20 octobre ici à Amiens.
Et oui, du contenu revendicatif en soutien Aujourd'hui, 8 camarades des coups de cœur.
Alors, eh ben voilà, ça y est, on y est arrivé. Alors aujourd'hui, il n'y a pas à discuter, c'est la relax pour rien.
Mesdames et messieurs, la conquête.
Question.
Eh hey, mais c'est pas normal, il faut une kermesse là-bas.
Bah oui, c'est ça,
c'est,
c'est
quoi la kermesse
là?
Nous qui nous ont parqués là-bas, on est revenus là.
Ils ont été interdits par la mairie de faire ça ici.
Ah, mais,
ils ont
mais le mot d'ordre, ils ont qu'à dire là-haut.
On est d'accord, maintenant qu'ils ont fait leur connerie avec leur kermesse, etc., vous venez ici. Le Tourcoing. Un
Tourcoing,
ouais.
Nos camarades, mon accès, nos camarades, mon effet, nos camarades, mon effet, nos camarades, mon effet, nos camarades, mon effet.
Alors aujourd'hui, être devant le palais de justice d'Amiens, c'est pour défendre le droit syndical, c'est pour défendre les mouvements sociaux, c'est pour pouvoir continuer à manifester dans la rue aujourd'hui en France.
Ouais, bah c'est l'une des nombreuses raisons hein, qui m'ont amené effectivement à venir ici. Après, on est dans une société, hein, la solidarité, on en manque beaucoup, d'accord ? Donc faire preuve de soutien ici, ça montre que voilà, c'est pas mort. C'est pour donner aussi l'exemple aux gens et leur faire comprendre que quand on est solidaire, on peut arriver à faire des choses. On a des camarades qui sont à l'intérieur, qui sont en train de se faire tacler pour des raisons politiques, hein, parce qu'il ne faut pas se le nier, c'est pour des raisons politiques. On leur montre que nous, on n'abandonne pas. Et que si on s'élève, c'est pas tout seul, mais c'est avec les autres. On s'élève ensemble, on meurt tous ensemble. Et c'est ça, justement, c'est ça la symbolique de venir ici devant le palais de justice pour montrer voilà, qu'on est solidaire. Mais je l'ai répété au moins 14 fois, solidaire, là. Donc, je pense que les gens, j'espère, en tout cas, ils l'ont bien compris.
Et vous faites quoi ?
Moi, je travaille dans un centre d'appel sur Villeneuve-d'Ascq, donc c'est dans le nord de la France. Les nouvelles usines, comme on les appelle. Donc voilà, on prend des appels toute la journée. Je vais attendre peut-être.
C'est la sirène des copains de l'Union locale d'Avranches.
Ouais, effectivement. Ouais. Et heureusement qu'ils sont là parce que ils ont du matos de l'autre côté apparemment. D'après ce que j'ai cru entendre, normalement le rassemblement devait se faire pas trop loin d'ici. Et du jour au lendemain, en fait, la mairie a décidé d'aller nous parquer de l'autre côté dans un parc pas trop loin d'ici. Enfin, pas trop loin, suffisamment loin pour pas qu'on nous entende en tout cas. Donc en fait, là-bas, ils sont en train de... Il y a des conférences, des concerts, des trucs comme ça. C'est cool. Moi, personnellement, je préfère rester ici, même s'il n'y a pas les tentes, même s'il n'y a pas de couvert, au moins, on est au plus proche de... Enfin, on est au plus proche de la lutte, quoi. Là, devant, et qu'ils nous entendent. On va leur foutre la pression, c'est ça le but. Il faut leur foutre la pression.
Alors, foutre la pression à qui ?
Gouvernement, justice, police, mairie, institutions, tout. C'est leur foutre. Tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues, tous ceux qui veulent mettre des bâtons dans les roues aux luttes syndicales. Mais ah ouais, ça. Je suis un gars de la rage, moi, donc.
Alors, vous travaillez dans un centre d'appel, c'est ça hein ?
Ouais, c'est ça. Ouais. Je prends des appels toute la journée pour une grande société d'énergie. On va dire ça comme ça. On est prestataire de services. Donc, on est le dumping social, on le voit tous les jours. C'est-à-dire qu'on fait le même travail que des personnes qui sont en interne. Et on est payé on est payé au SMIC pile, 1080 euros. Eux, ils sont payés 1400 euros. Je dis pas ça de façon jalouse, etc. C'est tant mieux pour eux si en interne, ils arrivent à gagner plus. Mais du coup, on est des victimes de système en fait, de système capitaliste qui voilà, c'est l'argent. On réduit les coûts et on pense pas à l'humain. L'humain il passe toujours au second plan à chaque fois. Et ces gens-là là à l'intérieur, qui font passer l'humain au premier plan, qui essayent de lutter.
Les Goudières donc.
Voilà c'est ça, qui essayent de lutter pour les camarades, pour leurs camarades de l'usine parce que c'est bien ça. Hein. C'est le fric avant l'humain. On licencie et on exporte. Ces gens-là, ben voilà, on les met au palais de justice.
Donc les 8 ont été poursuivis, ils ont été condamnés à 24 mois de prison dont 9 fermes, hein, 24 mois avec sursis, dont 9 fermes.
C'est absolument n'importe quoi.
Eh bien, ils sont dans le tribunal et ils savent, comme Michael l'a dit tout à l'heure avant de partir au tribunal, qu'ils ne sont pas tout seuls au tribunal. Michael a tenu à faire passer le message à ceux qui n'étaient pas arrivés quand il est intervenu. Ils savent, les 8 camarades, que vous êtes tous là aujourd'hui à leur côté, en solidarité et pour gagner la relaxe des 8 de Goodyear.
La CGT ne fait pas la loi dans ce pays.
2014, les salariés sont licenciés. Et ce, malgré des bénéfices records.
Liquidation, un documentaire écrit et réalisé par Mourad Lafitte.
Le niveau est historique pour la multinationale. 2014, 2,5 milliards de dollars. 2013, 629 millions. 2012, 212 millions. Plus impressionnant encore, depuis 2009... Goodyear a augmenté ses revenus de plus de 700%.
Il y a une constance chez Goodyear, la médiocrité. Très mauvais. 220 accidents du travail en 2009, 210 en 2010, autant en 2011.
Il y a eu un manque terrible d'investissement. À partir du moment où ils ont commencé leur projet de restructuration, ils ont arrêté tous les investissements. Ça a été une mise à mort de l'usine, en fait.
Le 6 janvier 2014, coup de colère des salariés, consécutif à la grande détresse sociale qui règne depuis des années, lorsqu'ils apprennent que leur usine va fermer. Le directeur de production et le DRH du site sont retenus sans violence.
Même s'il y a des provocations des deux personnes, M. Glessé et M. Tilly, moi ce que je vous demande, pour votre intérêt, pour ce qu'on a démarré là, puisse continuer dans l'intérêt de tous, c'est qu'on ne répond pas aux provocations, ils sont ici présents, parce qu'ils attendent qu'une chose, c'est le débordement.
Le 24 novembre 2015, les 8 ex-Goodyear comparaissent devant le tribunal d'Amiens, alors que la direction de Goodyear France et les deux cadres ont retiré leur plainte. Le 12 janvier 2016, le tribunal correctionnel d'Amiens condamne 8 anciens salariés de l'usine à 24 mois de prison, dont 9 fermes.
L'élan formidable.
Fyodor Hilov, l'avocat des Goodyear.
De solidarité qui va bien au-delà des militants syndicaux, qui va bien au-delà des salariés même. Cet élan formidable est lié au caractère inédit, non seulement de la peine qui a été prononcée, mais aussi de la réclamation d'une peine de prison ferme venant de l'État, venant du procureur de la République, qui représente le ministère de la Justice, et qui, j'en suis absolument certain, a réclamé cette peine scandaleuse, inacceptable, sur instruction politique.
Bien, si on ne prend pas conscience,
Élodie Thuaillon-Ibon,
que ce mouvement de criminalisation,
avocate,
de pénalisation, de répression, il est général et qu'il est problématique d'emblée, y compris pour les droits communs, eh bien, malheureusement, le mouvement social, les militants, finiront toujours par le prendre en boomerang, parce que dans les situations de crise aiguë, eh bien, le pouvoir, qui représente, nous le savons, majoritairement les intérêts patronaux, le capital, eh bien, le pouvoir se sert de tous les outils à sa disposition pour empêcher les choses de bouger.
Alors, tout d'abord, je tiens à ce qu'on applaudisse chaleureusement, comme il se doit, François Hollande.
Amiens, 14 octobre 2011.
Moi, je ne suis pas comme d'autres, vous allez le reconnaître assez facilement, qui vient devant les travailleurs dans leur usine et qui leur promet ce qu'il n'est pas capable de tenir après. Donc, ce que je dois dire doit être aussi ce que je tiendrai. Il n'y a rien de pire que de promettre ce qu'on n'est pas capable de tenir.
Oui, allez.
Comment il s'appelle? Ah ouais, moi les grisonnants, comme ça me rappelle Mourad.
Liquidation, oui. Mourad, Lafitte. Vous avez fait un documentaire sur justement toute l'affaire Goodyear, c'est ça?
Oui, exact.
Et aujourd'hui,
vous attendiez, vous, à ce qu'il y ait comme ça une sanction aussi forte contre des syndicalistes? Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, la criminalisation de l'action syndicale, elle a toujours existé. Clémenceau, le modèle de Manuel Valls. Clémenceau, c'est la répression des grèves de courrières, début du siècle. Des mineurs sont victimes d'une catastrophe. Ils décident de se mettre en grève. Clémenceau envoie 10 000 fonctionnaires de police pour réprimer cette manifestation. Les grèves de 48, il y a une répression syndicale. En 48, c'est Jules Moc. Massacre de mineurs, emprisonnés, déchus des droits. Et là, nous, le constat que nous avons fait, 2016, qui devrait être une date de commémoration, on devrait se dire, mais c'est le Front populaire, ben non, on a la loi travail. Et bien entendu, il y a une réaction de la part du monde syndical et du monde ouvrier. S'ensuit une vague de répression, elle a toujours existé. Malheureusement, ces derniers temps, effectivement, il y a un pic, alors pour de multiples raisons. Briser toute velléité, tout ce qui relève la tête dans ce pays. Aujourd'hui, les tribunaux sont engorgés de gens qui relèvent la tête, qui sont progressistes et qui veulent faire avancer tout simplement la condition humaine. C'est un constat qui est honteux, qui est dramatique.
Mesdames et messieurs les magistrats du tribunal d'Amiens, François Hollande a dit que vous étiez des couillemots et des paresseux. Alors, messieurs les juges, relancez nos camarades.
Envoyez-les.
Chargez, chargez.
La CGT ne fait pas la loi dans ce pays.
Chargé, bien sûr, chargé.
Ah, ce ministre, comme il est important. C'est vraiment le numéro un du gouvernement. Le plus honnête, le plus intègre. Celui qui fera rendre gorge à la veille.
Irénée. Chargé, bien sûr.
Ah, ce ministre, c'est une chance de l'avoir.
Envoyez les flics.
Ma porte est toujours ouverte pour le dialogue.
Regardez-le comme il est impressionnant. Partout il passe, on adore ce géant.
Chargé, chargé.
Mais chargé, bien sûr chargé. Allez charger, allez charger.
J'aime mon métier, c'est pourquoi je le fais bien. C'est vrai, il y a un côté un peu répétitif. Envoyez les flics,
envoyez les flics,
envoyez les flics. Mais quel boulot n'a aucun défaut.
Pas de conquête sociale sans liberté syndicale. Et ouais, c'est justement ce qui est en train de se défendre ici, c'est les libertés syndicales. Et c'est pour ça qu'il y a un rassemblement, il y a des centaines, allez, des milliers de citoyens, syndicalistes ou travailleurs qui sont venus ici à Amiens pour participer à ce rassemblement, pour défendre la liberté syndicale et pour dénoncer la répression contre le mouvement syndical. On voit qu'on se retrouve de plus en plus devant les tribunaux pour défendre, pour accompagner des militants qui sont poursuivis et qui doivent se défendre et défendre le droit du travail, le droit de dénoncer, le droit de manifester. Et aujourd'hui, donc, c'est les 8 d'Amiens, de Goodyear, qui sont devant le tribunal d'Amiens pour un appel pour essayer de casser la décision de justice du 12 janvier dernier qui les condamnait à 24 mois de prison, dont 9 mois fermes.
Pour moi, ça a été une dérive très grave de l'état d'urgence contre l'ensemble des militants, contre l'exercice du droit de manifester, au-delà même du droit syndical. C'est l'ensemble de nos droits de manifester qui a été sévèrement atteint par l'état d'urgence, en fait. Sur Paris, ça a représenté 300 procès à peu près, 2000 arrestations pour la loi travail sur 5-6 mois. Et aujourd'hui, on n'a pas une semaine à Paris sans qu'il se passe un procès de gens qui sont poursuivis dans le cadre de la loi travail. Et donc j'aimerais vraiment appeler à ce qu'il y ait un abandon des poursuites engagées contre l'ensemble des militants dans le cadre de la loi travail et la fin de l'état d'urgence aussi. Merci.
David, je m'appelle David.
Alors on est au tribunal d'Amiens, là il y a les 8 qui sont en train de se défendre parce qu'ils ont essayé de défendre justement leurs emplois. Vous, vous étiez un salarié, vous êtes un ex-salarié.
Je suis parti des 1193 salariés qui ont été licenciés. Oui.
Alors comment ça s'est passé ces licenciements et cette fermeture d'usine?
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a engagé contre la direction une lutte qui était sur le plan juridique pendant pas mal d'années, avec quelques succès qui nous ont... Pas mal d'années, ça fait quand même, depuis le début des offensives de la direction, ça a duré 5-6 ans. Sur le plan juridique, on a eu des possibilités par des vices de procédure de maintenir les emplois. Et puis on a été au bout de cette démarche-là. Et au final, au moment des négociations pour finalement partir avec quelque chose d'un peu plus conséquent que ce qui était proposé sur le plan social qui n'a jamais été négocié, au final, on a dû demander l'ouverture de nouvelles négociations à la direction. Et ça aboutit aux événements qu'on est en train de dérouler dans la salle aujourd'hui.
Combien de licenciés alors?
Je crois que c'est 1173 précisément.
Et donc vous en faites partie?
Oui.
Et vous avez travaillé combien d'années?
Une vingtaine
20
d'années.
20 ans.
Ouais, ouais.
Ticket boisson repas, relax pour les 8 goudieurs. 19 et 20 octobre 2016, Amiens, capitale de la lutte pour la liberté syndicale contre la loi travail. Tous les bénéfices reversés à la caisse de solidarité. Je vous en prie. Alors Guillaume Vado, on est au rassemblement en soutien des 8 salariés de Goodyear hein, qui sont en ce moment au tribunal à quelques centaines de mètres d'ici à Amiens. Et vous, vous avez été aussi victime de violences policières et donc vous êtes venu témoigner de la répression contre les mouvements sociaux, contre les participants aux manifestations contre le travail. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce rassemblement?
C'est vrai que c'est particulier parce que moi j'ai été invité parce que j'ai été victime de violences policières. Quand j'entrais chez moi, je n'avais pas mon costume de militant parce qu'il n'y a pas de costume, donc les policiers ne le savaient pas. Et néanmoins, comme j'ai voulu filmer un contrôle au faciès, avec une dame qui criait de douleur parce que les menottes étaient trop serrées, le fait que je filme ne leur a pas plu, ils m'ont attrapé. Et c'est là où il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'ils m'ont brutalisé, ils m'ont menacé de mort, de viol, ça a duré, ils m'ont mis un coup de taser, ils ont dérapé très très loin. Moi, je pense que c'est intéressant de comprendre le lien qu'il y a entre cette manière, cette méthode policière vis-à-vis des populations d'une ville comme Saint-Denis et ce qu'on a vécu au printemps. Parce que pour beaucoup, pour les habitants d'une ville comme Saint-Denis, ce qu'ils ont vu à la télé sur ce que subissaient les manifestants, c'était l'extension de pratiques de la police qu'eux subissent plus au quotidien. Et ça doit nous interpeller, y compris sur cette répression, l'état d'urgence, comment est-ce qu'il y a une espèce de diffusion de pratiques de répression, d'encadrement des foules, de violences psychologiques aussi, qui s'étendent désormais au mouvement social de manière de plus en plus spectaculaire, cherchent à le contrer, cherchent à lui imposer de nouvelles limites, mais qui résonnent avec des violences qui sont historiquement subies aussi par les populations les plus fragiles et les populations racisées, notamment dans les banlieues, quoi.
Alors ce qui surprend dans votre témoignage, Guillaume, c'est quand même les propos tenus par la police, enfin en tout cas des policiers auxquels vous avez été confrontés, vous, quoi.
Ça, c'est vrai que c'est étonnant quand même. C'est-à-dire qu'on a une femme noire qui n'a pas de ticket et on me dit « c'est Daesh, pourquoi tu filmes ?» Mais moi, je voudrais rappeler, je suis enseignant à Paris 1 et on a tous en tête un petit peu cette phrase de Manuel Valls qui n'est pas un militant du Front National mais qui est le Premier ministre du Parti Socialiste, enfin au Parti Socialiste, et qui nous avait dit « face au terrorisme, quand vous cherchez à comprendre, vous êtes déjà en train d'excuser ». Et moi, je trouve que face à un contrôle au faciès, quand vous filmez, vous êtes déjà en train de protéger le terrorisme. On est aussi, en fait, dans une seule et même transformation de toute forme de contestation, de toute forme de discours alternatif ou tout acte qui va contre l'ordre des choses dominants, de cette assimilation à tout ça au terrorisme, qui sert ensuite d'argument pour justifier toutes les méthodes, toutes les limites, toutes les entraves aux libertés.
Et aujourd'hui, vous êtes venu aussi en solidarité avec les 8 salariés de Goodyear?
Tout à fait. Alors, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, en fait. J'étais étudiant, j'étais militant. On avait, à un moment donné, en 2013, milité beaucoup pour le soutien au Goodyear. Il y avait PSA Aulnay qui fermait aussi. On avait organisé un meeting à Sciences Po. C'est quelque chose qui avait particulièrement marqué cette convergence des luttes à l'époque. Et puis, on a vu que, malgré tout, il y avait un rempart en face du gouvernement socialiste qui, pourtant, s'était fait lire beaucoup par ses syndicalistes, ses ouvriers, enfin, des différentes usines qui, depuis, se sont mangés non seulement les fermetures, mais en plus la répression. Et c'est clair que là, on est 4 ans après, ça me semble particulièrement important que 9 mois de prison ferme, ça ne passe pas, quoi. On ne peut pas avoir cette génération de combattants, syndicalistes, ouvriers, qui se retrouvent à manger 9 mois. Je faisais le lien avec les quartiers ou avec les manifestations contre la loi travail, mais nous tous, s'ils prennent 9 mois, s'ils se retrouvent 9 mois derrière les barreaux, dans quelles conditions après on continue à militer, à résister, à manifester? Non, dans des conditions différentes et particulièrement dégradées, donc on ne peut pas laisser passer ça.
Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin? Il y a quand même pas mal de monde d'arrivée. On dit qu'il y a encore des cars qui sont dans les bouchons. Alors là, franchement, vous m'épatez parce que ceux qui disaient que la lutte dans notre pays n'avait plus d'avenir vont devoir bien regarder ce qui se passe aujourd'hui à Amiens. Alors je vais vous faire un petit compte-rendu rapide de ce qui s'est passé en audience. Moi, je reste persuadé que la relaxe, mes camarades, on va certainement l'obtenir. Et vous savez pourquoi on va l'obtenir? On va l'obtenir surtout parce que vous êtes présents. Parce que la lutte de classe, mes camarades, fera face à la justice de classe.
Suspension d'audience au tribunal d'Amiens pour l'audience en appel des 8 de Goodyear, et Mickaël Ouamin est venu prendre la parole ici sur l'espace Saint-Pierre où se déroule le rassemblement de soutien en attendant la relaxe des 8 de Goodyear.
Merci, bravo et à tout à l'heure. Merci mes camarades, et comme je le disais tout à l'heure, je vous aime. Et relax, 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 relax.
Mickaël Mallet, j'ai 17 ans chez Goodyear, moi. J'ai toujours été militant de la CGT. Après, je suis rentré dans le syndicat. Oh là. C'est mon parcours chez Goodyear. Je suis au Pôle emploi. Il y a 700 personnes qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, 750.
Et qu'est-ce qui se joue aujourd'hui sur cette audience en appel, alors? C'est défendre la liberté syndicale.
Défendre la liberté syndicale et aussi faire voir ses droits. C'est surtout faire voir les droits qu'aujourd'hui qui existent en France. Aujourd'hui, on ne peut pas être condamné pour des choses qu'on n'a pas faites. Donc moi, clairement, je suis venu, j'ai fait appel, c'est pour prouver mon innocence.
Vous faites partie des 8?
Oui, des 8. Mais moi, je ne suis pas venu chercher du sursis. Hein. Je suis venu chercher une relaxe complète. Me dédouaner de tout, en fait. Ce qui est très important pour l'avenir. Parce que dans le parcours professionnel, c'est un petit peu compliqué avec de la prison ferme, même du sursis, par rapport au B2, par rapport à plein de choses.
Et vous comptez faire quoi maintenant?
Moi,
après,
j'ai l'ambition d'être artisan taxi. Donc aujourd'hui, je suis bloqué depuis la condamnation. Parce qu'il faut le B2 vierge, en fait.
Donc, donc le casier judiciaire?
Le B2 vierge, automatiquement, il faut qu'il soit vierge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas m'engager dans cette voie. Donc j'attendais avec impatience le deuxième jugement. Je pense qu'aujourd'hui, le plus facile pour moi, c'est de travailler pour moi. Pour retrouver du travail dans la Somme, ça sera très compliqué. Le nom déjà marqué dans le courrier, dans tous les journaux, hein, les quotidiens d'ici, ça reste compliqué. En plus, avoir sur le CV la Goodyear et avoir l'étiquette CGT, c'est pas de bonne augure. C'est quand même une condamnation qui est inédite en France. Hein, de la prison ferme, aujourd'hui, ça n'était jamais arrivé. Sur des syndicalistes, et pas que des syndicalistes, hein, parce que sur les 8, il y a quand même 3 personnes qui sont... Ils ne sont pas élus. Donc on peut quand même se poser la question de se dire il y a une répression quand même aujourd'hui en France sur le mouvement, sur les mouvements sociaux. En fait, concrètement aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de se battre pour son entreprise. Même au niveau des jugements, nous on a gagné tout pendant des années et du jour au lendemain, on a tout perdu. Hein. Tous les jugements, pourtant avec beaucoup plus de preuves. Hein. Donc il y a une stratégie aussi qui est mise à mal par le gouvernement aujourd'hui. Hein. Sur un gouvernement socialiste qui n'empêche pas les fermetures d'entreprises en France. Il y a quand même des entreprises qui, à 4000, à 2000, à 1000, à 500, à 800, qui ont été fortement touchées.
Il n'y a rien de pire que de promettre ce qu'on n'est pas capable de tenir.
François Hollande. Quoi? Quoi?
Moi, c'est Jean-François Condal, moi. 34 ans chez Goodyear. 34 ans, et puis un merci, au revoir, coup de pied dans le cul à la fin, quoi.
Alors, on est devant le tribunal. Il y a encore du monde devant. Là, une délégation hein, de gens qui sont venus vous soutenir. Hein. Vous faites partie des 8.
Ouais, c'est ça. Je fais partie des 8 condamnés en première instance. Et là, on vient d'entendre l'avocat général qui vient d'abaisser légèrement la peine, c'est-à-dire qu'il ne demande plus de la prison ferme. Il n'y aura plus de 9 mois ferme et 24 mois avec sursis. Et là, c'est notre avocat qui est en train de plaider, là, de faire sa plaidoirie.
Et vous voulez la relaxe, hein ?
La relaxe totale, oui. De toute manière, notre avocat est en train, en ce moment, de faire un bon boulot, il me semble. Ça va être le but final, c'est de demander la relaxe totale, parce qu'on estime rien avoir fait de mal dans cette affaire-là.
Alors, comment ça se passe depuis que cette boîte a fermé pour les 1000 et quelques salariés qui ont été licenciés ?
Il y a eu certaines créations d'entreprises. Un petit 800 personnes qui sont au Pôle emploi actuellement. Encore quelques-uns qui sont encore en cellule de reclassement. Après, c'est d'intérim, c'est du travail précaire, quoi. Beaucoup de travail précaire. Et puis voilà, quoi.
Et ça va être simple de retrouver du boulot ici, dans la Somme ?
Ah, simple, oui, ça va être très simple. Ça va être très simple, déjà. Avec le dossier que les Goodyear ont et tout ça, en plus nous. Et on sait très bien que la région est un peu sinistrée au niveau emploi, quoi. Tout ce qui va arriver, si on entend des entreprises qui viennent s'installer comme Amazon et tout ça, mais il faut quand même savoir que c'est des boîtes un peu le bagne aussi là-dedans. Hein.
Un peu le bagne.
Un peu le bagne, oui. Donc voilà, après trouver du boulot, non, ça va pas être facile. On va faire des formations et depuis 18 mois, je suis en cellule de reclassement et il me reste encore 3 mois de cellule de reclassement. À la Saudi, donc je suis en formation, puis recherche d'emploi après, tout ça. En espérant, bien sûr, au final, décrocher quelque chose.
Alors, Jean-François Candal, il y a eu beaucoup de monde qui est venu aujourd'hui hein, vous soutenir. Là, oui. On est devant le tribunal, il y a encore du monde. Il est tard le soir parce que donc, l'audience dure plus longtemps que prévu.
Il y a encore un peu de monde là devant le tribunal. Après, on a passé la majeure partie de la journée ici au tribunal, mais je suppose qu'au point de rassemblement qui se trouve à l'étang Saint-Pierre, je pense qu'il y a encore du monde là-bas.
Ça y est, c'est la fin de l'audience. Ça y est, c'est plié.
11 janvier.
11 janvier.
Je ne suis pas catastrophé, je ne suis pas dans le triomphalisme. Je dis simplement que déjà que la peine de prison ferme soit retirée, c'est pour nous un poids en moins. Mais c'est nettement insuffisant au regard de ce qui nous est reproché, à savoir aujourd'hui strictement rien. Donc moi, j'attends avec beaucoup d'impatience ce rendu de jugement du 11 janvier. Et en fonction de ce qu'il sera, bien évidemment, on est en cassation.
Reynald, Jurek, comment ça s'est passé cette audience? Alors, on vient de sortir du tribunal, là on va retrouver les camarades qui sont venus vous soutenir.
Nombreux camarades qui sont venus nous soutenir, effectivement. Comment ça s'est passé? Je pense qu'on a essayé de, par tous les moyens, de prouver que si les deux personnes de la direction ont bien été séquestrées, nous, on est responsable de rien. On a fait que essayer de gérer une situation qui aurait pu être dramatique pour eux. D'ailleurs, ce qui est un petit peu bizarre dans l'affaire, c'est que nos deux dirigeants reconnaissent que la CGT a joué un rôle prépondérant pour leur santé, parce que il y avait vraiment des gens qui étaient très excités dans la salle. Mais j'ai l'impression que le procureur a pas entendu ou a pas voulu comprendre, parce que bon, nous retirer un petit peu de prison ferme, mais pour nous mettre 24 mois de prison avec sursis, aujourd'hui j'ai pas l'impression d'avoir gagné grand chose, hein, honnêtement. Donc je sais pas comment ça va être accueilli. Je pense que bon, le fait de retirer la prison ferme, ça nous enlève un poids quand même sur les épaules. Mais je pense pas qu'on va en rester là, quoi. Honnêtement, c'est une décision qu'on trouve vraiment disproportionnée par rapport à ce qui nous est reproché.
Et vous avez passé combien d'années à Goodyear, Reynald ?
Moi, j'ai 25 ans d'ancienneté chez Goodyear. Donc, en gros, j'avais fait toute ma carrière de travailleur chez Goodyear. Donc, aujourd'hui, en plus, à part savoir faire un petit peu dans le pneumatique, Mon niveau scolaire n'a pas progressé parce que j'étais dans un poste où on n'avait pas besoin de me faire faire de formation. Aujourd'hui, bah, je repars de zéro, quoi, en gros.
Et vous faisiez quoi, alors ?
J'étais constructeur, c'est-à-dire que j'assemblais deux produits que je passais à un de mes collègues qui en assemblait un autre avant de le faire cuire. Donc j'étais un travail de manutention, vraiment ce qu'il y a de plus con à faire, quoi, malheureusement. Aujourd'hui, vous savez que le jour où il y a eu la fermeture de l'usine Goodyear à Mianor, l'action Goodyear a pris 12%. Hein. Donc c'est 12% pour nos, c'est 12% pour ceux qui ont des actions, etc. dans le groupe. C'est pas pour les pauvres ouvriers, donc l'argent pour l'argent.
Vous aviez pas d'action chez Goodyear?
Ah non, j'étais pas. Non, non, nous on avait juste un travail où on leur faisait gagner de l'argent et ça nous permettait de vivre. C'est tout ce qu'on demandait. Hein. C'est tout ce qu'on demandait. Le truc, c'est que Goodyear était une usine assez familiale. Hein. Moi, quand j'ai perdu mon emploi, mon frère a perdu le sien, mais j'ai un deuxième frère qui a perdu son emploi aussi. Hein. Donc, je veux dire, nous, c'est toute la famille qui est complètement à la rue. Hein. J'ai encore une gamine qui fait des études et j'aurais quand même bien voulu pouvoir subvenir. Enfin, je pense que je suis son père. Je pense qu'elle mériterait de pouvoir poursuivre ses études, mais effectivement, je ne sais pas si... J'ose espérer pour elle qu'elle pourra les finir, quoi.
On ne me verra pas rougir au moment où j'invoque nos fêtes. J'en ai gardé l'urgence de dire trois cicatrices et un rire bête. Hé, hey, combattant, ça je divers. Où êtes-vous, ça me démange. Jusqu'ici j'ai fait que de me taire. Mais je sais ce qu'on a fait aux ans. Quand de nous j'aime les instants. Un peu des fois je fais le fier. Mais si demain m'est important, c'est qu'on n'a rien laissé d'hier. Même pas honte. Même pas honte.
On aura le rendu de jugement le 11 janvier 2017 à Amiens. Ne dites pas où, à Amiens, je viens de vous dire. Bon, cela étant, ça nous laisse un petit peu de temps quand même pour préparer le bis repetita d'aujourd'hui pour que vous veniez chercher avec nous le jugement le 11 janvier. On peut aujourd'hui aisément penser le 11 janvier 2017, on obtiendra une relaxe totale et définitive. Bisous les potes, bisous, 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 regardez.
Deux ans de prison avec sursis, donc requis contre les 8 de Goodyear, délibéré le 11 janvier à Amiens. Et jeudi dernier, c'était à Grenoble que la cour d'appel a statué. Le recours des ex-salariés d'Ecopla, qui voulaient reprendre en coopérative la fabrication de barquettes en aluminium, a été jugé irrecevable. Coup dur pour les Ecopla, qui ne baissent pas les bras. Ils vont continuer les recours et travaillent à faire émerger un projet de loi, la loi Ecopla, pour que plus jamais, au profit des actionnaires, une entreprise française ne soit mise à la casse. Et tout de suite, on part dans les beaux quartiers avec Charlotte Perry, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde.
L'affichage a fleuri dans les rues du très bourgeois 16e arrondissement de Paris. Un centre d'hébergement d'urgence en préfabriqué ici.
5 bâtiments en bois qui accueilleront 200 personnes, SDF ou migrants.
À l'orée du bois de Boulogne.
C'est pas le bois de Boulogne, alors allez les mettre ailleurs, hein, c'est bon.
Il y a déjà des gens dont les murs ont baissé en prix.
Ça vous inquiète que le prix des habitations baisse ?
Ça m'inquiète, c'est inadmissible. C'est de la place en France quand même, ça n'a pas besoin de se passer dans le 16e.
C'est pas notre culture qu'on respecte les Français. Ben non, c'est pas autre chose. Tout ça, c'est lié, monsieur. Ce sera l'islam, encore une fois, l'islamisation.
Je pense qu'ils ont été mal informés. Parce que déjà, c'est pas un centre pour les migrants. Il y a même des gens du 16e, des personnes qui habitent dans les rues dans le 16e aussi, qui seront hébergées, prises en charge dans ce centre. Il y a un peu tout type de population, des familles, des isolés qui habitent à Paris. Et c'est un projet pour 3 ans. Moi, je m'appelle Moussa. Je suis là pour soutenir ces familles qui souffrent beaucoup.
Vous n'avez pas l'air d'accord.
Je vois que c'est en train de devenir une tribune pour migrants. Ça me déplaît, oui. Ça me défrise.
C'est pas des migrants qui vont être là.
On s'en fout. on veut personne.
Le 16e arrondissement ne compte que 8 places d'accueil d'hébergement d'urgence sur 9700 dans la capitale.
Que j'habite le quartier, moi. 3 générations, alors j'ai pas besoin qu'on vienne me salir le quartier, là, et tout me gâcher, non ?
Il y en a marre !
On se souvient de l'hystérie qui avait provoqué l'annonce de la création d'un centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri en lisière du Bois de Boulogne, dans le très chic 16e arrondissement. Le 14 mars dernier, nous avions assisté à la réunion d'information qui avait tourné à la foire d'Empoigne. Cette semaine, dans la nuit de dimanche à lundi, un incendie volontaire a endommagé la façade d'un des bâtiments du centre en train d'être achevé. Un acte criminel en lien ou pas avec la colère des habitants du 16e. Une occasion en tout cas de revenir sur ce moment incroyable d'hystérie collective où le vernis de la bourgeoisie d'ordinaire si polie a craqué le 14 mars dernier. Dès 19h, tout le 16e était massé devant les portes de l'Université Dauphine avec pancartes et affiches pour défendre cet entre-soi si prisé des grands bourgeois.
Tiens, monsieur Blanchard-Dignac.
Vous êtes de quelle radio ?
C'est monsieur Blanchard-Dignac.
France Inter.
Eh bien voilà, c'est vous que j'étais venu voir.
Ah.
Venez, on va se mettre un peu au calme. Parce que
c'est... Il y a beaucoup de monde là qui est arrivé.
Je suis étonné de voir des CRS armés comme si nous étions de dangereux révolutionnaires. Nous sommes simplement des défenseurs du Bois de Boulogne. Et donc, on dit on ne construit pas dans une zone inconstructible.
Mais alors, ce projet, ce n'est pas du bétonnage, c'est des algéco, c'est provisoire.
Oui, c'est le provisoire avec la ville de Paris dure. Sauf si le combat continue. Et le combat va continuer. Nous avons déjà déposé un recours au tribunal administratif contre la convention d'occupation du domaine public. Nous sommes contre la privatisation du domaine public. Nous sommes pour maintenir le Bois de Boulogne, ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu de promenade publique.
Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si les gens qui souhaitent qu'on accueille des migrants ici au Bois de Boulogne, est-ce qu'ils sont prêts à en accueillir chez eux ? Je pense que Mme Hidalgo, elle n'a pas de migrants qui vivent chez elle.
Vous aussi, vous êtes venu pour la réunion pour le Bois de Boulogne ?
Oui, tout à fait.
Vous vous appelez comment ?
Didi Barré.
Donc c'est une réunion publique
pourquoi
d'information ?
Oui, enfin pourquoi ? Tout simplement parce que le camp va être installé à moins de 2 minutes à pied du stade de la Muette, de la piscine d'Auteuil, où vont des lycéennes et des collégiennes en classe, tôt le matin à 8h, tard le soir à 18h. Et quand on a vu ce qui s'est passé à Cologne avec toute la prédation sexuelle, on peut être très inquiet pour nos enfants. Et je viens principalement pour cela. J'ai peur pour mes filles.
J'entends parler de camp de migrants. Moi, j'ai entendu ce matin le représentant de la mairie disant qu'il s'agit d'un camp pour des SDF et pas pour les migrants. Hein. Confusion règne complètement. Bah, ah, c'est pas la même chose.
Hein.
À la limite, je préfère des migrants aux SDF.
Ah, bon entre...
moi,
ah bon
je préfère les SDF aux migrants.
Bah, moi, je préfère les migrants, finalement.
Pourquoi ?
Parce que les SDF, malheureusement pour eux, je les plains, mais ils sont un peu des épaves de la société et qui pratiquement ne peuvent pas s'en sortir, à mon avis. Donc ça sera une espèce de, comment dire, de misère humaine permanente. Les migrants, on peut espérer quand même qu'ils vont avancer. Ils arrivent un peu crasseux, mais petit à petit, ils auront la volonté de s'en sortir. Moi, je préfère les migrants. En plus, bon, c'est une claque pour les gens qui habitent là. Vous avez envie de donner, vous, sur un camp de... Et de tous les jours, de donner de votre salle de bain, votre salon sur un camp de hasard, certainement pas. Ça paraît du bon sens.
Là, ça bouchonne, hein. On a du mal à rentrer dans l'université, on est coincé entre les deux portes, il y a énormément de monde.
Faut pas venir ici pour rigoler. Hein.
C'est trop, quand
même. Ah, ça bouchonne parce que c'est. Y a...
C'est la sécurité.
On attend qu'ils avancent, s'il vous plaît.
Bonsoir. Posez là un sac, monsieur, posez là.
Bonsoir.
Allez, on est rentré. Théâtre Edgar Faure. Bonjour.
Alors, vous avez les 3 ou 4 premiers rangs qui sont réservés à la presse. Tout ce qui est prise de son, ce sera sur le côté.
D'accord. Le théâtre est quasiment plein. La réunion va commencer. Qui est-ce qui arrive ?
Claude Goasgen, député de Chédien.
Il est applaudi. Hein. Rénovation.
T'es élu.
Je m'appelle Gwenaëlle Daboville, je vais animer la réunion. J'ai l'honneur de laisser la parole à Madame Broca, qui est préfète de Paris et qui va introduire cette réunion.
Alors, les préfets sont chargés par la loi de mettre à l'abri les gens en situation de détresse, de précarité. La devise de la République, c'est de permettre à chacun, au moins, d'avoir un toit au-dessus de lui.
Sans faire de provocation, madame.
Je m'exprime et vous poserez vos questions après, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, madame Roca.
Je poursuis. À Paris.
Provoquer le 16e arrondissement, madame.
À Paris, chaque jour, tout au long de l'année, nous mettons à l'abri 30 000 personnes. Ce sont des femmes, des hommes, des couples, des familles, des enfants. Je ne vous parle pas des migrants, je vais y revenir dans un instant. Ces 30 000 personnes, nous les mettons à l'abri dans des centres d'hébergement d'urgence.
Mettez-les à Calais.
Il y en a 78. Enfin bon, moi j'arrête de parler. Si
oui, c'est ça,
bon.
Arrêtez. Arrêtez. Oui, arrêtez.
Il y a 78.
Arrêtez.
La ville de Paris nous a proposé un terrain qui lui appartient. Et pour nous, il n'y avait pas de raison de s'y opposer dès lors que le projet qui était projeté sur ce terrain remplissait toutes les conditions. Donc nous avons...
Oh ! Inconstructible ! Inconstructible ! Dehors ! Dehors !
Alors... Quelles sont ces conditions? Mais laissez-moi aller jusqu'au bout.
Non.
Vous criez après.
Non. Non.
Alors.
Asseyez-vous là, on attend.
Il est un fou furieux.
Je poursuis.
Là, il reste des places.
Donc, est-ce qu'il est interdit de construire dans un site classé? Non.
J'étais assise à côté de lui, il s'est mis à hurler, à insulter la préfète, là. Il m'a menacé avec son poing, il m'a insulté. Mais il faut qu'il sorte. Attendez. Mais regardez, il vient de me faire un doigt d'honneur. Mais enfin, c'est quoi de mon temps, moi.
Il n'y aura pas de migrants, il n'y aura pas de personnes venant de Calais ou d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Gosgel, si vous pouvez me dire quelques mots.
Merci madame la préfète. Simplement, je voudrais me dire que, très franchement, nous mettre devant le fait accompli est une mauvaise solution. C'est un diktat. Vous avez employé une méthode. Tout ce cinéma qui consiste à dire le 16e arrondissement n'est pas solidaire, le 16e arrondissement n'est jamais solidaire. Tout ce cinéma ne tient pas debout. Le vrai problème, c'est que vous avez décidé tout seul. Quand M. Bartolone traitait Mme Pécresse de race blanche de Versailles, vous avez décidé de frapper le bourgeois sans nous demander notre avis. Vous avez tort, car c'est une très mauvaise méthode. Alors, en réalité, le bois de Boulogne n'est pas construit. Après, on vous a dit 5 ans, non, 3 ans. Mais après, on verdira. Et je vous le dis franchement, verdissez tout de suite. Ça sera beaucoup mieux.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre nouveau parc à thème dédié au calme et à la paix.
Nous ne laisserons pas faire.
Tout est en place pour le début de la saison, c'est comme on aime, tout est propre et bien équipé.
On a deux interventions qui sont prévues. Tout d'abord, monsieur Hanoun, qui est l'architecte du projet, qui va vous...
Ici, on se distrait sans chahut, on regarde les chrysanthèmes poussées dans le vase de bébé.
Vendu.
Voici donc le gabarit du projet vu côté bois de Boulogne. Le projet s'arrête ici au premier étage pour laisser passer les arbres.
Si vous avez de bas revenus, que vous viviez en HLM, dans une vraie poche et jupe, dans une banlieue et qu'en plus vous soyez immigré ou même seulement jeune, vous êtes suspect. Mais ici pas de garde à vue, on perd plus de temps en dilemme, vous êtes direct inculpé. Sous les verrous, toutes les verrues, les tares, les cancres du système, qu'on ne vous voit plus, les éclopés.
Monsieur, je suis président de cette université. Je suis votre oncle, alors il y a un minimum de respect.
Heureusement qu'on est revenu, sinon la France, un matin blême, se réveillait toute seule au feu.
Je vous accueille et c'est la réponse que vous faites.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre nouveau parc à thème, dédié au calme.
Nous ne laisserons pas faire.
Et à la paix.
Vous êtes 800 dans cet amphithéâtre. Monsieur, je ne suis pas le frère Jean-Bois. Si vous voulez mettre 20 000 personnes dans un endroit, vous allez ailleurs. Je ne suis plus garant de la sécurité. Dans ces conditions, ma responsabilité, c'est de dire, et je l'assume, que cette réunion s'arrête à l'instant présent. Je vous demande de votre...
met dehors. Il nous dit de partir.
C'est le président de l'université, là ?
C'est lui qui a accueilli la réunion. On est au moins 1500 personnes et il y a 700 personnes admissibles dans l'amphithéâtre. La sécurité, elle était très compromise dans les escaliers où on était 500 les uns contre les autres dans les escaliers.
Ah, vous venez des escaliers ?
Oui.
Quoi, la sécurité ? Oui, la sécurité n'est pas engagée, ils n'y connaissent rien. Moi, je connais. Ah, j'ai fait 20 ans dans la sécurité. La sécurité n'est pas engagée. De toute façon, pourquoi le président de l'université prend la parole ? Ça ne le regarde pas.
Bravo pour le discours de morale, c'est vraiment pas le lieu. Hein. Comme si les gens du 16e étaient tous des méchants, des brutes, des égoïstes. On sait très bien qu'on ne peut pas accueillir tout le monde et loger tout le monde.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de l'ambiance ce soir ?
Oh bah c'est détestable. Hein. Telle réaction, c'est hors de propos.
Vous appelez ?
Dominique Bordin, de la mission sans-abri de l'Hôtel de Ville. On a ouvert une dizaine de centres d'hébergement cet hiver. C'est la première fois qu'on voit ça. Dans le 15e, ça n'a pas été simple. Hein, mais là, franchement, c'est complètement disproportionné. Hein. C'est une espèce d'hyper-réactivité. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'incident notable qui est émaillé. C'est ça, le fonctionnement de ces centres. Et ça devrait quand même permettre de rassurer les gens, mais à condition de pouvoir échanger et dialoguer. Mais là, ce n'est pas le cas, hein, visiblement.
Il y a combien de centres d'hébergement d'urgence sur Paris ?
On en a une centaine, hein, en réalité. Mais avec un gros déséquilibre entre les arrondissements de l'Est parisien, où il y a beaucoup de centres d'hébergement, et puis les arrondissements de l'Ouest, où il y en a peu.
Vous allez voir, il va y avoir un véritable mouvement citoyen de grande ampleur.
Vous appelez comment ?
Jean-Pierre.
Jean-Pierre, et vous faites partie de l'association RPB, des riverains du Bois de Boulogne.
Voilà. On paye beaucoup d'impôts dans le 16e arrondissement. On est en colère, on est en mouvement de protestation parce qu'on est provoqué par la mairie de Paris et les choses vont très mal se terminer.
Et là, la réunion de ce soir, c'était un
mais
peu
c'est
particulier.
C'est un début, la réunion. C'est
personne
qu'un,
n'a
c'est
pu s'exprimer.
Début, mais c'est dans tout Paris, c'est pas le 16e. Le 16e sera peut-être le fer de lance de la révolte à Paris et puis dans, ailleurs. On va pas se laisser égorger. On s'en fout, on va pas lâcher l'affaire.
On n'est pas dans la violence.
Mais non,
on est en trois gens de bonne condition. Non, moi, ce que je déplore, c'est que moi, je suis venu pour être informé en tant que riverain. Et évidemment que je suis contre. J'habite à côté. Mais j'aurais voulu aussi être informé.
Vous appelez comment ?
Je m'appelle Roger Kalmanovitz.
Vous étiez dans quel domaine, vous m'avez dit ?
Il y a relations internationales et assurance des risques spéciaux.
Alors, il y avait des personnes qui étaient inquiètes par rapport au prix de l'immobilier ?
Ben, elles ont raison d'être inquiètes parce que ça a déjà chuté, en partie à cause de ça. Depuis aussi, une deuxième raison, c'est qu'il y a deux immeubles de 10 étages, 200 familles avec crèche et parking, boulevard Suchet, qui sont en train d'être construits.
Les logements sociaux ?
Les logements sociaux. Ces deux facteurs font que nous étions plus ou moins à 10 000 euros du mètre carré il y a encore un an. Et aujourd'hui, quand on peut vendre 8 500, on peut être content. Alors vous voyez, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 15%. Il n'y a pas matière à descendre dans la rue avec des fourches, mais il y a matière à savoir pourquoi et est-ce bien utile pour 200 personnes.
Il y en a marre, marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Il y en a marre, marre des pauvres. Et s'il y avait un peu moins de pauvres, ben il n'y aurait pas toute cette misère. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop, y'en a plein. Plein, 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 y'en a trop plein le cul.
Bonjour.
Bonjour.
Oh, bonjour.
Quel dommage.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas pu s'exprimer.
Voilà, ils sont membres de mon association.
Alors, on va avoir une mauvaise étiquette, alors que vraiment...
Dans le 16e, pour se nourrir, il y a des produits de qualité, mais ça coûte cher. Alors les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est pas un endroit fait pour ça. Parce qu'ils vont avoir sous les yeux, tous les jours, des magasins avec des belles marchandises chères, qu'ils n'auront pas les moyens de s'offrir. Vous croyez que ça va être généreux, ça ? Vous croyez que ça va les rendre heureux ? C'est pas possible que ces gens-là puissent vivre là. Il y a d'autres endroits pour les mettre, c'est de la provocation, parce que ce sont des bourgeois qui habitent le 16e. Mais si on a quelque chose, c'est qu'aussi on a économisé, on a bien travaillé, on n'a rien volé à personne.
Vous pensez que c'est une attaque de classe ?
Oui, tout à fait. Absolument. On paye des impôts, et pourquoi est-ce que nous, on est traités de cette façon ?
Il y avait pas mal de gens âgés.
Moi, je crois qu'il y avait des éléments perturbateurs là dans l'histoire.
Ah oui, il y avait des gens de la gauche.
Tout le monde attendait cette réunion.
Oui.
C'est pas possible. Il y a plein de gens qui étaient là pour créer des problèmes, comme dans toutes les manifs.
ne lâcherons pas faire.
Y'en a marre, marre des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre, marre des pauvres. Et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres. Y'en a nanana. Y'en a marre des pauvres, y'en a marre.
Vous l'avez entendu, tous les arguments sont bons pour tenir les pauvres à l'écart et défendre sa classe sociale. Mais la mairie de Paris a tenu bon et le centre d'hébergement d'urgence ouvrira bien début novembre, malgré l'incendie volontaire qui a ravagé l'une des façades du bâtiment lundi dernier. Rien d'étonnant pour les sociologues Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, avec qui nous avions été visiter le chantier en construction début septembre.
Les pauvres, quand ils travaillent, ils enrichissent les riches. Du coup, faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres. Bla bla bla, y'en a trop plein le cul.
Là, c'est la nuit, il est 22h un peu passé. Et là, on marche, on est une petite expédition de 3 personnes et on se dirige vers l'entrée du bois de Boulogne. On est au milieu du 16e arrondissement.
C'est là qu'il y a la plus forte concentration d'ISF, tout autour des jardins du Ranelagh. Alors, on y va parce que j'entends déjà les sirènes des convois exceptionnels, voilà. Et je veux qu'on soit là au moment où ils arrivent.
Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir exactement, Monique ?
Ben là, il y a un tiers des modules de ce centre d'hébergement qui ont déjà été installés. Et puis ce soir, c'est le reste qui est apporté. Et donc avec Michel, on a décidé de venir ce soir pour voir un peu ce qui allait se passer. La sociologie est un sport de combat. Et les pinceaux n'oublient jamais les gants de boxe au vestiaire.
Là, on arrive à l'orée du bois de Boulogne. Alors,
donc là, on est, tu vois, sur l'avenue du Maréchal Monoury. Alors, de ce numéro-là, 25, jusqu'au numéro 41, c'est tout le centre qui est pile en face de ces immeubles, installés de manière provisoire pour 3 ans sur l'allée des fortifications. Là, on voit les gens qui travaillent, les ouvriers qui travaillent, ils vont travailler toute la nuit.
3 camions de remorques.
Ouais, puis c'est des jeux de construction, en fait.
Oui, ça se monte et ça se démonte. Avec la grosse grue, ils sont en train de faire descendre les logements, en fait. Et c'est étonnant, on voit ce petit appartement qui flotte dans les airs, au-dessus des arbres, au milieu du ciel, et qui descend comme ça.
C'est devant des modules. Alors là, qui seront réservés aux familles, aux femmes avec enfants, et ce seront les premiers qui vont être mis en service. Et alors, ce que j'aime bien dans la colère des grands bourgeois, ils disaient oui, enfin, ce bois, un incendie est toujours possible. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là ce soir.
Il est 5 heures ce matin. Une bouteille remplie de liquide inflammable est projetée sur le bâtiment.
Il y a eu cette nuit, à 5 heures du matin, un incendie qui s'est déclenché suite à une intrusion d'un certain nombre de personnes sur le chantier.
Le gardien du chantier prévient aussitôt les pompiers. Et l'incendie est maîtrisé à temps.
Il y a évidemment depuis des mois un climat ici qui a été instillé, notamment par le député maire du 16e arrondissement, M. Goasguen, et qui dans cette affaire s'est comporté en pompier pyromane, parce qu'il a passé son temps à expliquer que ce serait catastrophique et qu'on aurait ici une espèce de zone de non-droit. Et donc je crois que chacun aujourd'hui doit aussi faire son examen de conscience et les responsabilités des uns et des autres doivent être regardées avec précision.
Dans tous les sons et dans tous les sens, c'était comme un bruit qui court. Retrouvez le podcast et toutes les infos sur le site de l'émission franceinter.fr. Après les infos, vous retrouvez André Manoukian pour les routes de la musique. Et nous, on part samedi prochain à 16h à l'assaut de l'Islande. Mmh.